Professeur, alors vous, en tant qu'expert qui fait des recherches sur cette région, le Rwanda est accusé par la RDC de soutenir les troupes de Laurent Nkunda. Quelle est votre lecture?
Écoutez, je crois que le soutien du Rwanda à Nkunda Batware ne fait aucun doute. Les doutes persistent cependant quant aux formes et à l'étendue du soutien accordé par le Rwanda à Nkunda. Il ne fait aucun doute, par exemple, que le Rwanda autorise le recrutement des troupes de Nkunda au sein de la population de réfugiés tutsi congolais au Rwanda. Celle-ci se monte à environ 50 000 réfugiés. Et Nkunda a carte blanche pour recruter des hommes au sein de cette population. Il n'y a pas de doute non plus que le Rwanda donne une aide logistique assez importante à Nkunda, véhicules, armements, etc. Probablement également une aide en équipement. Ce n'est pas une découverte récente de la part des autorités de Kinshasa. La montée en puissance de Nkunda n'est pas seulement due à l'appui qu'il reçoit du Rwanda. Je crois qu'il faut remettre le phénomène Nkunda dans un contexte un peu plus large, c'est-à-dire le contexte de la situation dans le nord du Kivu depuis la période électorale. Les Rwandophones du nord Kivu ont peur.
Peur de quoi?
Parce qu'ils ont peur du fait qu'ils ont été exclus des institutions provinciales. Ils n'ont plus accès au pouvoir, même s'ils sont assez bien représentés au sein de l'appareil sécuritaire, ils se trouvent en perte de vitesse, si vous voulez, et parfois ils se tournent vers Nkunda en désespoir de cause. Alors, il y a aussi le cas de la MONU, qui est un cas assez difficile à juger. Sans la MONU, à mon avis, Nkunda serait déjà à Goma et à Bukavu. Mais je crois que la MONU aurait dû montrer davantage d'initiative et de faire pour empêcher Nkunda de se livrer aux attaques qui ont eu pour résultat ce spectacle navrant de dizaines et centaines de milliers de civils chassés de leur village.
La RDC accuse le Rwanda, mais le Rwanda nie en accusant à son tour la RDC d'entretenir des FDLR qualifiés de génocidaires.
Oui, mais ça, c'était l'argument classique que le Rwanda a mis en avant pour excuser ses incursions en RDC. Il est certain que les FDLR présente un danger potentiel pour les populations civiles, non seulement potentiel mais réel. Ça, ce n'est plus à démontrer. J'ai au cours de mon voyage au Congo eu l'occasion de m'entretenir avec certains éléments des FDLR. Certains sont extrêmement pacifiques, d'autres beaucoup moins. Il y a autant de FDLR qu'il y a de sites de campement de FDLR. Il est très difficile de généraliser à propos des FDLR, mais je crois que le Rwanda, dans l'ensemble, a utilisé l'argument FDLR pour justifier ces incursions en République du Congo. Ça ne fait aucun doute. Ce qui ne veut pas dire que le FDLR ne devrait pas être neutralisé. Mais dans les conditions actuelles, tant que le Rwanda insiste pour qu'on lui livre 7000 prétendus génocidaires chez les FDLR, qui est un chiffre absolument astronomique et qui ne repose sur rien, je crois qu'on n'arrivera pas à cette ouverture de l'espace politique rwandais qui est en fait le sine qua non du retour des FDLR au Rwanda. Donc la situation est bloquée.
Professeur, pour terminer, comment résoudre cette tension qui est montée entre la RDC et le Rwanda finalement?
Je crois que d'abord il faut tenir compte des éléments externes à la crise, en particulier réaffirmer en acte et en parole le mandat de la MONUC. Et ceci à la lumière du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui autorise l'usage de la force, indépendamment des autorités du pays hôte, lorsque celui-là ne peut protéger la vie des civils. Deuxièmement, le fameux responsabilité de protéger les populations civiles, en anglais c'est le R2P, Responsibility to Protect. Eh bien, ce principe R2P devrait être activé. Et ceci suppose l'envoi d'une force d'interposition au Mafisi et à Rutshuru, et peut-être même avec l'appui des éléments du BATPAC, du bataillon pakistanais d'Uvira. Et troisièmement, il faut que la facilitation reprenne ses travaux, mais cette fois-ci avec des contacts beaucoup plus étroits avec Kinshasa et Kigali. Rien ne se fera sans l'accord de Kigali. Kigali reste le joker dans le paquet de cartes, le joker in the pack. Et quatrièmement, il faut reconnaître que le processus Amani est dans les cordes. Il est moribond. Je crois que si l'option réanimation est viable, il faudrait alléger sa charge institutionnelle. Maintenant, nous avons affaire à un mécanisme extrêmement lourd avec des commissions mixtes humanitaires, commissions militaires, des sous-commissions, des cellules de ceci, des cellules de cela. C'est un appareil d'une lourdeur vraiment qui est contre-productive.
Professeur, merci.
Merci.